Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, de nombreux et beaux rendez-vous musicaux nous attendent en ce mois d'avril. Certains d'entre eux vont être les derniers de la saison, notamment pour les grands interprètes et les arts renaissants. Yenoufa, le chef-d'œuvre de Léo Sienaschek, se prépare aussi au Théâtre du Capitole pour ce qui va être un des événements musicaux de l'année, tout du moins en ce qui concerne les amateurs d'opéra. J'ai donc convoqué autour de la table du grand studio de Radio Présence les trois chroniqueurs réguliers de Mélomanie. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et enfin Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musico-Palais et membre des Clés de Saint-Pierre. Pas moins de trois chroniqueurs vont donc vous présenter l'actualité musicale des jours à venir. Mais tout d'abord, petit regard dans le rétroviseur sur les concerts de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
C'était un des rendez-vous signalés dans l'agenda du précédent numéro de Mélomanie. Le duo formé par la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Lebozek était en concert jeudi dernier à l'espace Palumbo de Saint-Jean pour le compte de la saison de l'association Gabriel Fauré. Je rappelle que nous avions reçu dans cette émission, début février, Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'Orchestre du Capitole. C'était pour la parution du CD de Sonate Russe qu'elle a enregistré avec son amie Anne Lebozek sous le label Maglone, un disque qui rassemble les sonates pour flûte et piano de Prokofiev, Edison Denisov, Paul Luon et Yuri Kornakov. La sonate de Prokofiev était bien au sommaire du concert du 7 avril à l'espace Palumbo, mais associée à des pièces de Mozart, Poulenc et Bartok. Finalement, les deux musiciennes n'ont pu résister à l'envie d'élargir le programme annoncé et elles ont ajouté la sonate de Denisov et le premier mouvement de celle de Paul Luon, qu'elles ont joué en bis devant une assistance plutôt fournie et qui ne demandait pas mieux que de prolonger la soirée. Il est vrai que le duo, comme à l'accoutumée, a été brillant dans ses interprétations, avec la fougue que nécessite la musique russe et les belles couleurs et les nuances que requiert la sonate de Poulenc. Et puis ce qui a été très apprécié également, ce sont les présentations qu'elles ont faites de chacune des pièces qu'elles ont jouées. Toutes les deux font ça très bien d'ailleurs. Elles ont rappelé à quel point les sonates de Prokofiev et Poulenc ont compté dans la formation de leur tandem, deux œuvres qui les accompagnent depuis près de trois décennies. Celle de Mozart a été composée par un enfant déjà génial, mais qui n'avait pas 10 ans à l'époque. C'était lors de son passage à Londres, où il avait rencontré Johann Christian Bach, un des fils du grand Jean-Sébastien. Quant à la sonate de Bartok, elle est issue d'un arrangement pour flûte et piano de la suite paysanne hongroise du grand compositeur Magyar, elle-même basée sur 15 chansons paysannes hongroises que Bartok avait recueillies en déambulant dans les campagnes de son pays natal, où il a découvert et enregistré un grand nombre d'airs et chants folkloriques. On a vraiment appris beaucoup de choses lors de ce voyage musical qui a mené le public de la France à la Russie, en passant par la Mitteleuropa. Il y a plusieurs possibilités pour vous en donner un aperçu. J'ai choisi finalement de vous faire écouter le bis joué par Sandrine Tilly et Anne Lebozek, le premier mouvement de la sonate de Paul Luon, ce compositeur russe, comme son nom ne l'indique pas, qui a fini sa vie en Suisse après avoir longtemps vécu à Berlin et dont la musique, tout du moins dans cette pièce, vous allez voir, rappelle un peu celle de nos impressionnistes français du début du XXe siècle. C'est donc un parfait résumé du programme qu'ont donné les deux musiciennes jeudi dernier à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Thank you. Le premier mouvement, Gemächlich, de la sonate pour flûte et piano opus 78 de Paul Louhon, interprété par Sandrine Killy et Anne Lebozek, une des œuvres que l'on trouve sur leur CD de sonates russes paru sous le label Maglone, et une des sonates au programme de leur concert donné jeudi dernier à l'espace Palumbo de Saint-Jean, dans le cadre de la saison organisée par l'association Gabriel Fauré. Changement total d'ambiance et de période avec le concert que nous allons évoquer maintenant, donné samedi à l'église du Jésus à Toulouse, un concert qui n'était pas du tout prévu, organisé en quelques jours par les 5 associations dont les bureaux sont situés dans cette église désacralisée. Une soirée intitulée « Musique pour la paix » afin de venir en aide à l'Ukraine. Les 5 associations en question sont le chœur Antiphona, les Arts Renaissants, l'ensemble baroque de Toulouse, les Sacboutiers et Toulouse les Orgues. Tout était donc représenté lors de ce concert de soutien dont l'intégralité de la recette va être reversée à la Croix-Rouge au bénéfice des Ukrainiens. Nous y étions tous les deux, Serge Chosy. Quelles œuvres et quels musiciens avons-nous entendus lors de ce programme entièrement baroque ?
Entièrement baroque, mais émouvant, j'ai trouvé, hein, dès le début, puisque donc le concert a été présenté par Yves Rechsteiner, qui est le directeur musical de Toulouse les Orgues, et il a ouvert le concert et refermé le concert avec 2 œuvres de Johann Sebastian Bach. Alors, des œuvres vraiment en situation. L'une, c'est le prélude en sol majeur de la BWV 1007, la sonate pour violoncelle seule. Et il a terminé avec une œuvre qui est un choral, hein, de Jean-Sébastien Bach et qui est « O Haupt voll Blut und Wunden », c'est-à-dire « O tête pleine de sang et de blessures ». Donc, c'était vraiment en situation et très émouvant. Et puis, entre les deux, donc, il y a eu la succession de tous les ensembles hébergés dans l'enceinte de l'église du Jésus, avec d'abord les Sacboutiers qui sont venus avec leur répertoire Renaissance, évidemment, avec une sonate de Dario Castello, d'ailleurs qui s'appelle Sopra la Battaglia, on voit qu'il s'agissait de bataille là aussi, puis une canzone de Giovanni Picchi, et puis un extrait qui est intitulé Sulla cetra amorosa, c'est-à-dire Sur la lyre amoureuse, de Tarquinio Merula, qui rappelle un disque que les Sacboutiers ont enregistré récemment. Donc, ils étaient réunis, il n'y avait pas que les 2 cuivres anciens que sont Jean-Pierre Canillac au cornet à bouquin et Daniel Lassalle à la sacoboute, mais il y avait également Hélène Médous au violon, Yasuko Bouvard à l'orgue et Suzanne Edward au violoncelle. Suzanne Edward, que l'on l'a retrouvée 3 fois d'ailleurs.
Elle a donné beaucoup de sa personne.
Ah, beaucoup, énormément.
Et de sa musique.
Ah oui, tout à fait. Excellente musicienne.
Son talent,
hein,
bien sûr.
Vraiment. Hein. Donc, c'était un très beau moment par les Sacboutiers. Et puis ensuite, il y avait l'association plutôt, les Arts Renaissants, qui était représentée ce soir-là par son nouveau directeur musical, qui est Jean-Marc Andrieux, à la flûte à bec. Il était associé à une autre flûtiste à bec, Stéphanie Cetolo, et à Jan-Willem Janssen à l'orgue, l'ancien directeur musical.
Dire, c'était vraiment le trait d'union, là.
Oui, oui, des Arts Renaissants. Et donc, on a eu droit à 5 œuvres, une canzone à due canti de Tarquinio Merula, de nouveau, puis 2 pièces de Girolamo Frescobaldi avec une canzone à due canti encore, les 2 chants en question sont les 2 flûtes, évidemment. Et puis, une œuvre pour orgue seul, un capriccio. Enfin, également, pardon, une sonate à 3 de Francesco Turini. Et puis, une aria quinta de Marco Uccellini. Et ça tombait très bien, Uccellini, ses petits oiseaux.
Petits,
hein,
oiseaux, oui.
Et
petits,
on avait l'impression que l'église était envahie par les oiseaux. Avec ses 2 flûtes à bec, c'était vraiment très, très beau. Ensuite, c'est l'ensemble Antiphona qui est dirigé par Rolanda Mouleika et qui était ici représenté par 2 sopranos, dessus, comme on disait à l'époque, Colline Bouton et Eva Tarmizier, et avec Suzanne Edward de nouveau au violoncelle, Yves Rechsteiner, cette fois à l'orgue positif. Et ces interprètes ont donné cette magnifique 3e leçon des ténèbres de François Couperin, qui est une pure merveille, il faut le dire, hein, avec ces espèces de mélismes chromatiques qu'il y a. C'est vraiment très, très beau. Avec 2 voix très sonores, il faut le dire. Hein,
oui, oui, oui.
2 sopranos vraiment...
Oui, oui, oui.
Qui projetaient très bien leur timbre. Hein. Ensuite, ça a été l'ensemble baroque de Toulouse, qui, comme on le sait, est dirigé depuis la flûte traversière, cette fois, par Michel Brun. Et il était accompagné, donc, outre Suzanne Edward, pour la 3e fois, de Léonore Darnaud au violon et de Lucille Chartrain au clavecin. Et ils ont joué le nouveau quatuor parisien numéro 6 de Georg-Philippe Telemann, une œuvre magnifique aussi. Donc, vraiment...
Notamment son 6e et dernier mouvement,
oui, ah, oui,
la Chaconne, enfin, qui était
une merveille.
Une merveille, oui.
Une merveille. Donc des œuvres splendides. Et puis donc, pour terminer, c'était de nouveau l'orgue. Alors le Cavaille-École, c'est un Cavaille-École qui équipe l'église du Jésus, un petit Cavaille-École, mais très très beau. Et c'était de nouveau Yves Rechsteiner donc, qui a conclu par ce choral de Jean-Sébastien Bach. Et puis ensuite, tous les musiciens sont venus saluer. Tous.
C'est rare de les voir tous réunis.
Ah, absolument, absolument. Donc,
bien qu'ils fréquentent le même lieu, puisque
je
l'ai dit, hein, tous les bureaux de ces associations
sont là. Et qui devrait dans l'avenir l'animer un peu plus qu'il ne l'est actuellement. Il y a un projet avec la mairie de Toulouse qui est en cours, et donc on espère que ça va prendre...
L'intérieur de cette église est magnifique, l'orgue est excellent.
L'orgue est magnifique. Il y a un simple petit problème d'acoustique, quelquefois. Il faudrait peut-être prévoir des rideaux ou quelque chose qui atténue un peu l'excès de résonance. Donc, une belle soirée qui a rapporté...
Plus de 4 000 euros, je crois.
Plus de 4 000 euros.
Il y avait 180 personnes présentes.
Oui, plus de 180 personnes, ce qui est quand même bien.
Ce concert impromptu, en quelque sorte. Qui a été un peu organisé au débeauté. La communication a dû circuler, mais bon, elle aurait pu sans doute encore plus. Et tout de même, 180 personnes.
C'était presque là. On sentait une ferveur dans le public, autant que parmi les musiciens.
Et puis musicalement, c'était très beau.
Très très beau, de très haut niveau.
Alors, c'est Yves Rechsteiner, comme vous l'avez indiqué, le directeur artistique de Toulouse des Orgues, qui a ouvert ce concert en interprétant sa transcription à l'orgue du célèbre prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach. Et bien, je vous propose de l'écouter maintenant. Le fameux prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach, transcrite et interprétée à l'orgue par Yves Rechsteiner. Nous concluons donc cette première partie d'émission avec cette œuvre. Petite virgule musicale avant de retrouver mes trois invités dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La suite de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musique au Palais et membre des Clés de Saint-Pierre, et avec Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse lui aussi, également chroniqueur pour le site Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. L'actualité musicale de la semaine prochaine, c'est entre autres Yenoufa, l'opéra de Léo Sianacek au Théâtre du Capitole du 20 au 26 avril. Quatre représentations de ce chef-d'œuvre de l'art lyrique du XXe siècle dans la mise en scène de Nicolas Joël. Nous en avons déjà dit quelques mots la semaine dernière, mais nous allons entrer aujourd'hui dans le détail de cette œuvre et de cette production avec Robert Pénavert et Serge Krichevski. Une question pour commencer, pourquoi est-ce un chef-d'œuvre qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie?
Peut-être je parlerai après Robert, hein, si c'est pas gênant, parce que comme ça il va donner des éléments déjà sur l'histoire,
sur le contexte,
l'histoire, les précédents. D'accord. À Toulouse aussi, voilà.
Voilà, bon, effectivement, Yenoufa fait partie d'un moment très précis de la vie du Théâtre du Capitole, puisque en fait cette œuvre est entrée au répertoire de l'Opéra National du Capitole, qui n'était pas national à cette époque-là encore, puisque c'était le 8 octobre 2004. Et cela tombait à point nommé, puisque c'était la réouverture du Capitole après un an de fermeture pour des problèmes de cage de scène et de raménagement de coulisses. Et en même temps, cette date tombait avec le 100e anniversaire de la création de l'œuvre. Donc deux choses qui se sont télescopées, mais non pas pour s'annihiler, mais pour se conjuguer, pour faire de cette entrée au répertoire quelque chose qui est une grande date du Théâtre du Capitole. Alors, avec Léo Sianacek, nous sommes en présence d'un des grands représentants, représentants le plus important de la musique du 19e et du 20e siècle. Simplement rappeler qu'il est exact contemporain de Puccini, à 4 ans près, puisque donc Puccini est né en 1858 et Sianacek en 1854. Puccini est mort en 1924 et Sianacek en 1928. Donc ce sont des exacts
contemporains. Ils se sont vraiment filé le train, si on peut dire.
Voilà, alors je ne sais pas s'ils ont discuté ensemble un jour, ça je ne sais pas.
Certainement.
On va dire certainement.
Au travers des partitions.
Ça serait tellement bien que ça serait merveilleux. Alors, Léo Sianacek est né à Moravie, donc je vais dire en 1854. Il était tout d'abord instituteur, puis après il a acquis une formation musicale à l'école d'orgue de Prague. Prague, je souligne Prague, parce que Prague constitue un événement important pour l'œuvre dont nous parlons. Et ensuite, il s'est perfectionné à Leipzig, à Vienne, etc. Bon, bref, comme pas mal de musiciens de cette époque-là. Donc, il a écrit 9 opéras. Il a écrit d'autres choses que l'art lyrique, bien évidemment. Mais en fait, il n'a pas écrit 300 symphonies, 400 concertos, non. Pas du tout. Son œuvre n'est pas pléthorique du tout. Mais enfin, il a fait, je crois, que de très, très belles choses. Voilà. Alors, je vais en rester aux opéras, puisque c'est mon domaine de prédilection. Voilà, dans Yenoufa, dont nous allons parler, mais d'autres opéras qui, à ma connaissance, n'ont pas été donnés au Capitole. Alors certes, Katia Kabanova, je pense, a été donnée. L'affaire Macropoulos également, mais La Petite Renarde Rusée, je ne me souviens pas de l'avoir vue.
La version concert, on a eu ça, il me semble, il n'y a pas si longtemps.
Non? Et de la non, mais au Capitole, je parle répertoire du Capitole, de même que le dernier de La Maison des Morts, je ne me souviens pas de l'avoir vu au Théâtre du Capitole, je ne pense pas. Donc il reste encore pas mal de ces œuvres, mais tout ça pour dire, bon là je viens de citer quasiment l'intégralité de ces œuvres, bon, c'est-à-dire elle a été beaucoup moins pléthorique que Donizetti ou des gens comme ça.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais voilà, donc il s'éteignit à l'âge de 74 ans en 1928. Donc pour en revenir à Yenoufa, en fait, c'est Sianacek qui en écrit le livret en s'inspirant d'une pièce de Gabriela Prechova. On est exactement dans le drame lyrique naturaliste villageois, comme il était de coutume d'appeler ce genre de pièce à cette époque-là. Alors, pour le situer, c'est simple, nous sommes au 19e siècle à Moravie, bien sûr. Et deux demi-frères, Laka et Stiva, se disputent les faveurs de la belle Yenoufa, une jeune femme jalousement gardée par sa belle-mère, la terrible Kostelnika. En français, on l'appelle la sacristine. Hein. Le rôle est baptisé comme ça. Mais bon, voilà, Yenoufa est quand même follement amoureuse de Stiva, qui est vraiment un sale gosse. Hein.
Et elle est juste enceinte de lui, mais par ça.
Voilà, comme tu viens de me spoiler, merci Serge. Elle est enceinte de lui, mais bon, pour ne pas que vous savez, 19e siècle, pour ne pas que la honte tombe sur la famille, la sacristine décide de cacher Yennoufa enceinte, et une fois qu'elle a accouché, personne ne le sait bien sûr, hein, elle l'endort avec un somnifère, elle prend le bébé et elle va le jeter, c'est en plein hiver, dans une rivière évidemment glacée. On se doute que le petit ne fait pas long feu. Mais évidemment, le printemps arrive, et avec le printemps, le dégel, j'ai pas besoin de vous en dire davantage. C'est un opéra terrible. Voilà, c'est un opéra terrible. Je ne connais pas d'opéra plus traumatisant, plus tétanisant que cet opéra. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est clair. Dramatiquement, musicalement, Serge Krzyzewski va développer bien mieux que moi cet aspect-là. Mais s'il est bien interprété, ben voilà, vous passez une sale nuit après, très clairement. Alors, pour en revenir à retour arrière, hein, comme on a l'habitude de dire dans cette émission, en 2004... Et je le dis, mais parce que c'est également, c'est la production de Nicolas Joël qui est reprise cette année. Et Nicolas Joël avait l'habitude de s'entourer pendant tout le temps où il a été au théâtre du Capitole et très souvent par un trio de magiciens de la scène qui était Ezio Frigerio, qui faisait les décors, qui est décédé dernièrement, oui, à ma connaissance. Son épouse, Franca Squarciapino, qui faisait des costumes absolument somptueux, et un magicien des lumières, Vinicio Kelly, qui est vraiment... Et tous les trois ont fait des choses somptueuses. Enfin, j'ai encore en tête La Femme sans ombre, je ne dis pas ça au hasard, enfin, j'imagine que tout le monde se souvienne de cette production, et tant d'autres. Et à cette époque-là, donc c'est cette production qu'on va voir, qui vraiment est une production qui se situe, la scène est dominée par la roue d'un moulin énorme, puisque voilà, ça se passe dans un village. Et la distribution était dirigée par un spécialiste de Jan Hacek, qui était le maestro tchèque Jiří Kout. Voilà, Serge, tu te souviens de
oui,
lui
oui. Voilà. Oui, je m'en souviens. Très bien.
Et sur scène, alors sur scène, cramponnez-vous, parce que dans le rôle terrible, le rôle qui en définitive pourrait être le rôle titre, si ce n'est que ce n'est pas le cas, le rôle majeur...
La sacristine, c'était...
Le plus terrible de la Kostelnica, dans la sacristine. Nicolas Joël avait invité la soprano allemande Hildegard Behrens à chanter ce rôle-là. Je peux vous dire que le deuxième et le troisième acte résonnent encore dans mes oreilles. C'était extraordinaire. À ses côtés, une toute jeune soprano hollandaise qui a fait une énorme, et qui fait une énorme carrière aujourd'hui, mais à cette époque-là, elle a débuté, hein, c'était Barbara Hoffmann. Deux ténors s'affrontaient dans cette sombre histoire, parce qu'évidemment, Laka et Stiva, étant donné les... Voilà, ils font les yeux doux à la même personne, ce sont des rivaux, du moins au début. Il y avait pour les débuts à Toulouse, alors le Stiva... un jeune ténor, Kevin Anderson, et puis dans le rôle de Laka, Jorma Silvasti, mais que lui, nous avions déjà entendu dans Walter, des Mad Chanteurs, ainsi que dans Tamino, sont deux rôles qui souvent se complètent assez bien. Et à côté d'Hildegard Behrens, il y a, et de Barbara Hoffmann, il y a un autre personnage important qui est l'aïeul, qu'on appelle l'aïeul, c'est la propriétaire du moulin, c'est elle qui essaie de mettre un peu d'huile dans les rouages, non pas du moulin, mais de la famille, hein, et qui était une immense soprano autrichienne. Je me souviens, avec Serge, nous avons eu la chance de l'entendre dans ses heures de gloire, qui était Helga Dernesch. On l'a entendu dans des Isoldes somptueuses. Voilà, bon, c'était dans une distribution
à la hauteur de l'œuvre, et très adaptée à l'œuvre.
Qu'on n'a pas du tout envie d'oublier, d'ailleurs, c'est pour ça que je tenais à faire la rappel. Cette année, alors ça, encore une fois, il faut tirer le chapeau à Christophe Gristy, parce que tout comme pour Carmen, il a été obligé de jongler, mais comme on passe les choses, absolument impossible à faire, surtout encore
surtout
Carmen.
C'est le rôle principal.
Voilà, genre, Carmen, d'accord, ok, Carmen, on peut s'arranger,
oui,
sur le circuit,
il y a
tout, il y a tout ce qu'il
possible.
Faut. Enfin, quand même, il a fallu les 06 de,
oui,
de Christophe Gristy pour que...
Oui, il faut un bon carnet d'adresse.
Je rappelle que sur 8 Carmen, il y avait 7 distributions différentes.
Oui.
Cette année, c'était Angela Denok qui devait nous faire Kostelnica.
Évidemment, Christine.
Elle était très attendue, très très attendue.
Bah oui, c'est une grande grande spécialiste du rôle.
Absolument.
Et
oui,
c'est annoncé depuis longtemps que ce
sera
elle.
Je rappelle que l'opéra est chanté en tchèque.
Oui, il faut être capable
de
chanter le tchèque et de bien le prononcer.
Voilà, c'est déjà bien
même
le prononcer.
Même si je pense que personne dans la salle ne comprendra, à de très rares exceptions,
voilà.
Sauf ceux qui connaissent vraiment très bien.
Voilà, alors, sauf que le problème, on pourrait revenir dessus, c'est qu'il y a également dans cette espèce espèce d'osmose parfaite que constitue cette œuvre. Il y a la musique, il y a la voix, bien évidemment, mais il y a aussi le son de l'idiome tchèque, voilà, qui fait entièrement partie de la composition musicale. Voilà. C'est extrêmement important. Donc, effectivement, bon, s'il y a des erreurs, personnellement, je ne les verrai pas. Ouais. Mais enfin, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Donc, il fallait trouver une autre Kostelnica. Et Christophe Christy a réussi à convaincre Catherine Hunold 15 jours avant le début de la première répétition d'affronter la Kostelnica.
Qu'elle n'a jamais chantée.
Qu'elle n'a jamais chantée.
C'est surtout ça.
Voilà. Non, mais c'est en tchèque, une œuvre qui repose un peu sur elle, hein, dramatiquement, vocalement, avec quand même des... Globalement, l'écriture de Yenoufa est très tendue, très très tendue en permanence. Donc, soit les voix sont en place techniquement, soit elles dérapent. Et si ça dérape, c'est évidemment pas joli à l'oreille.
Et Catherine Hunold, elle revêt le gant, je crois, tout de suite. Elle lui a dit
tout de suite. Oui, elle lui a dit. Alors, je me demande même si elle n'y a pas dit que ça trottait un peu dans sa tête. Alors,
sans doute qu'il y a eu ce rôle, oui. La conjonction.
Oui, il y a eu un alignement des astres. Mais enfin, quand même, il faut reconnaître que c'est un challenge, mais
énorme.
Oui, énorme. Voilà, absolument énorme. Les notes, elle les a. Ça ne dépasse pas le si naturel, Catherine Hunold. Bon, mais bon, voilà. Bon, bref, je lui souhaite dans tous les cas bonne chance. Yenoufa, c'était celle qui était prévue, puisque ça, je vous rappelle que c'est un spectacle qui a été reporté. Hein. C'est Marie-Adeline Henry qui, à ma connaissance, fait ses débuts sur la scène du Capitole.
Je crois.
Je ne passe pas l'avoir entendu par ailleurs. Ensuite, il y a deux ténors. En fait, il y a quatre rôles principaux. La sacristine Yenoufa et les deux ténors. Je ne veux pas dire que les autres sont vraiment subsidiaires. Ce sont de grands seconds rôles, les autres. Alors, les deux ténors, dont on va retrouver un artiste que nous connaissons bien dans le rôle de Laka, Marius Brienchou. Alors, nous les connaissons bien. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà venu par deux fois du Capitole pour chanter la rondinée. Et non pas le rôle non pas le rôle principal, mais le deuxième ténor, Prunier. Et donc, il était venu en 2005 et dernièrement, d'ailleurs, en 2017.
Voilà, 3-4 ans.
Bon, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir que nous revenons l'entendre. Par contre, il y en a un Mexicain, dont franchement, je n'ai jamais entendu parler, un jeune Mexicain, Mario Rojas, qui va chanter Stiva. Alors, le rôle est un peu moins long que celui de Laka, mais enfin, il n'empêche quand même, il est quand même assez tendu, assez difficile. Et donc, Christophe Christy nous le présente dans ses débuts européens. Il n'a jamais chanté, évidemment, en France non plus.
Ce sera une première en Europe, à Toulouse.
Et à Toulouse, voilà. Alors, c'est un ténor de ce qu'on appelle un ténor lyrique, hein, qui chante Bohème, Roméo, enfin, des choses comme ça. Alors, voilà pourquoi je voudrais en revenir au ténor. Il y a une tradition qui donne ces deux rôles-là de ténor à plutôt des ténors un peu vaillants, puisque John Vickers les a chantés, William Crocaran les a chantés, René Collot les a chantés, c'est-à-dire Richard Cassilli les a chantés, c'est-à-dire des ténors, alors pourquoi pas dire Eldon Ténor, mais enfin des ténors un peu plus dramatiques que Roméo ou Rodolphe de la Bohème. Donc on va bien voir. Autre changement de rôle, pour chanter la grand-mère, la gueule, dont vous savez qu'il était prévu ici, enfin, ça faisait partie des grands bonheurs, je pense, de Christophe Christy. Il était prévu une grande soprano qui a eu son immense heure de gloire, qui a été très courte, mais enfin, c'était Shirley Studer, et qui n'a jamais chanté à Toulouse, si ce n'est pour enregistrer Faust, je crois, à la Lohengrin. Mais parce que, bah, tout simplement, c'était une soprano qui tournait entre la Scala, etc., etc. Donc bah, malheureusement, elle n'est plus disponible. Et donc, c'est Cécile Gallois, et qui fera très bien, d'ailleurs, la grand-mère Borjovka. Voilà. Après, bon, il y a Jérôme Boutillier qui fait le contremaître, qui fait un double rôle. Mireille Delunge, qu'on a la chance d'entendre.
Effectivement.
Et dans un petit rôle, là, pour le coup, la femme du maire, c'est un petit rôle.
Grande chanteuse, Mireille
Delunge. C'est vrai. vraiment de l'hyperluxe, Mireille Delange.
Ensuite, elle aime bien Toulouse, Mireille Delange, je sais.
Victoire Bunel qui chantera Karolka, qui en définitive devient la femme de Stiva, et etc. Voilà.
Et Léonore Pancrazi aussi, qui revient une fois de plus.
Et Léonore Pancrazi dans un petit rôle. Oui, oui. Et Sarah Gouzy dans un rôle travesti. Le petit rôle Yano, et le petit rôle, malheureusement, qui annonce le malheur à la fin. La direction musicale va être confiée à quelqu'un, je pense, qui vient pour la première fois
au Capitole. Qui débute au Capitole à la direction.
Voilà, c'est Florian Krumkock. Et la mise en scène, évidemment, c'est celle de Nicolas Joël, qui sera assurée par Christian Karsten. Voilà. Mais c'est évidemment un grand, grand rendez-vous.
On
n'a pas loupé.
Absolument. Alors, on va parler de la partition avec Serge Krzyzewski. Mais avant, on va écouter un extrait donc, de Yenoufa. Je rappelle qu'il y a 4 représentations du 20 au 26 avril pour découvrir ou redécouvrir cette production et ce chef-d'œuvre de Léo Stianacek au Théâtre du Capitole. Nous allons écouter donc un extrait de la scène 1 de l'acte 1. Il s'agit d'une version de 1979 en Tchéquie. Le soir tombe, un air extrait de la première scène de l'acte 1 de Yenoufa interprété par Gabriela Benachkova, grande spécialiste du rôle dans une version de 1979 avec l'orchestre de l'Opéra National de Brno. Alors Serge Krzyzewski, je repose ma question, pourquoi c'est un chef-d'œuvre notamment sur le plan musical ?
Bon, d'abord, il est très difficile de répondre en quelques secondes à cette question.
Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer beaucoup.
Non, mais je ne développerai pas du tout. Je dirais que simplement, pour répondre peut-être à Robert, il faut de temps en temps passer une nuit blanche après un chef-d'œuvre et puis on récupère le lendemain. Voilà, je pense que c'est pas... On s'en remet très très bien et la qualité musicale et toute la vie intense et dramatique qu'a mis Léo Stianacek dans cet opéra est vraiment bouleversante. Alors, il faut y assister absolument parce que c'est très rare, à Toulouse en particulier, il n'y a que 4 représentations et c'est une musique très concentrée, effectivement très intense, qui est extrêmement personnelle. Alors Stianacek, on connaît tous l'opéra italien, anglais, allemand, français, mais l'opéra tchèque c'est une case à part et il y a de très grands compositeurs, il y a Smetana, Dvorak, Stianacek qui tous ont écrit beaucoup d'opéras. Stianacek a développé assez tardivement une langue très très personnelle avec des harmonies, des rythmes. Alors il est parti évidemment, comme beaucoup à cette époque, du folklore. Il avait étudié tous les folklores de l'époque. Lui est originaire de Moravie, né à Ugvaldi dans le sud d'Ostrava, un peu au sud d'Ostrava. Et il a développé vraiment un langage très particulier qui s'est développé jusqu'à sa mort. Et c'est dans la fin, à la fin de sa vie qu'il a écrit tous ses chefs-d'œuvre, dont voilà, les quatre grands opéras. Alors Yenoufa a eu un sort particulier, puisqu'il a fallu attendre 1916, c'est-à-dire qu'il avait 64 ans, pour que, en fait, enfin, cet opéra soit donné à Prague. Et à partir de là, il a été chanté par Maria Rieritsa, par les plus grands chanteurs dans tout le monde. Ça a été comme une traînée de poudre. Donc, c'est l'époque, effectivement, du naturalisme, mais je précise quand même que, bon, un opéra traumatisant, j'aurais pas été jusqu'à dire ça, si tant est que peut-être que Tosca soit traumatisant aussi. Alors, il y a des scènes de torture dans Tosca, quand même, il y a des assassinats à la fin, bon. Là, le gros problème, c'est qu'effectivement, il y a un enfant qui est mis, surtout pour une question d'honneur, l'honneur qui pèse très, très fortement sur les épaules de la sacristine Kostelnitschka, qui est la belle-mère de Yenoufa. Alors, on a un jeu d'opposition qui est déjà extrêmement savamment écrit dans la pièce de Gabriela Prajsova, que Jan Hacek avait vu, qu'il avait beaucoup marqué, et donc il a eu une gestation très longue. Cette histoire d'enfant mort, c'est aussi l'écho de la mort de sa propre fille, Olga, morte juste avant, et d'ailleurs, Jan Hacek lui-même a écrit que cet opéra pouvait être entouré d'un ruban noir du deuil, en hommage à Olga, à qui la partition est dédiée. Voilà, alors il faut l'écouter, c'est une langue très personnelle, très particulière, tonale, hein, c'est pas du tout atonal, dodécaphonique, c'est tonal, mais c'est une musique vraiment unique.
Serge Chosy, vous l'aviez vu en 2004.
Oui. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que, à l'image de Moussorgski avec la langue russe et de Debussy avec la langue française, ben, il a adapté la musique à la prosodie de la langue tchèque. Hein. C'est ça qui fait aussi.
Alors, ce sera sous-titré quand même, hein, pour assurer.
Oui, bien sûr.
Tous les opéras en langue étrangère sont sous-titrés au Capitole. Hein. Parfois, ça mériterait presque de l'être en français.
Oui, ça l'est aussi.
Hein. Je voudrais préciser que Nicolas Joël, à l'époque, et Christophe Christie, aujourd'hui, hein, ont décidé de donner la version originale. Puisque, oui. Donc, Serge, tu parlais, ça a été donné à Prague, oui, mais malheureusement, à Prague,
la version allemande.
Régnait surtout un chef d'orchestre qui s'appelle Karel Kovarovic, qui lui avait dit ça ne sera donné à Prague que lorsque j'aurai révisé l'orchestration. Donc ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Bon, ok, Jan Hacek a accepté pour être donné à Prague. Comme je disais tout à l'heure, il tenait à tout prix, et on le comprend, à ce que son opéra soit donné à Prague. Bon, fort heureusement, cette chose catastrophique, un peu dans le style... Non, de ce côté-là, c'est moi, mais Rimsky-Korsakov réécrivant Boris Godounov. Mmh. Bon, voilà, mais c'est moins catastrophique. Mais cela dit, voilà. Donc, c'est la version originale que nous entendrons.
Très bien, voilà pour Yenoufa, l'opéra de Leo Jan Hacek, est donc donné lors de quatre représentations du 20 au 26 avril au Théâtre du Capitole dans la mise en scène de Nicolas Joël. Avant cela, plusieurs concerts à vous signaler, à commencer par celui proposé par la saison Toulouse Guitare, ce vendredi 15 avril à 20h à l'auditorium Marthe Condat de l'université Paul Sabatier de Toulouse-Rangueil, où l'on va entendre le trio Cavalcade, formé par les guitaristes Jérémy Jouve et Mathias Duplessis et le percussionniste Édouard Prabu. Ce concert devait avoir lieu au même endroit le 14 janvier dernier et il a été reporté en raison de la crise sanitaire une fois de plus. Serge Chosy, vous allez nous présenter ce trio et le programme qu'il va jouer.
Ah ben, le programme, on ne sait pas. C'est un ensemble d'œuvres, on n'a pas le détail. Et donc, ce sont des œuvres à la fois inspirées de la musique indienne, brésilienne, donc Espagne et Mongolie même,
à toutes en les passant couleurs par du, l'Inde. Toutes les oui, couleurs oui. du monde vont y être.
Hein. Exactement. Et donc, ces trois musiciens, en fait, c'est Mathias Duplessis hein, qui, en 2011, a fait la rencontre de Jérémy Jouve, donc, qui est un autre grand guitariste, et eux deux ont fait appel à Stéphane Edouard, percussionniste qui joue des instruments...
Édouard Prabu.
Édouard, oui, exactement. Mais il s'appelle Stéphane Édouard hein, aussi.
Ah hein, bon, donc, d'accord.
Donc, et donc, il a accompagné aussi les grands noms de la musique, hein, des variétés comme Michel Jonas, Morane ou Ibrahim Malouf, etc.
Alors on va préciser, c'est un percussionniste franco-indien.
Oui, exactement, exactement. Et donc on assistera à un concert à la fois cosmopolite où se succéderont des solos, des duos, des trios, et puis certains chantent aussi. Donc on aura percussion, guitare, chant, vraiment très original comme.
Oui, alors il y aura beaucoup de compositions de Mathias Duplessis lui-même, parce qu'il
est
compositeur.
Bien sûr.
Jérémy Jou, Mathias Duplessis sont des amis de Thibaut Garcia, il a beaucoup joué avec eux, donc c'est pas un hasard s'ils sont présents dans cette saison. Et puis donc, Stéphane Edouard, Hébert Prabhu, je ne sais pas trop, lui c'est un maître du tabla, c'est-à-dire c'est les percussions indiennes. Voilà, alors est-ce qu'il y aura, sans doute, il y a un jeune guitariste en première partie, je ne sais pas.
Alors
ce sera qui cette fois-ci?
Oui, il s'agira de Sacha Rosenko, qui est élève en première année à l'ISDAT, dans la classe de Benoît Albert. Et Rémi Joussel.
Voilà, donc la tradition sera respectée. Un jeune guitariste du Conservatoire de Toulouse, ou formé au Conservatoire de Toulouse, se produira en première partie. Eh bien, tout de suite, un aperçu de la musique du trio Cavalcade, grâce à ce morceau composé par Mathias Duplessis, Bayao de Paris. Bayao de Paris de Mathias Duplessis, interprété par le trio Cavalcade, à découvrir en concert l'auditorium Marthe Condat de l'université Paul Sabatier de Toulouse-Rangueil ce vendredi 15 avril à 20h dans le cadre de la saison Toulouse Guitare. Encore deux concerts mardi 19 avril à Toulouse, une fois de plus le même soir et à la même heure. D'abord celui du grand pianiste turc Fazil Say avec la Camerata de Salzbourg à 20h à la Halle aux Grains pour le dernier rendez-vous de la saison des grands interprètes. Fazil Say, pianiste assez controversé fut un temps, et même encore un peu aujourd'hui, pour l'originalité de ses interprétations et ses partis pris musicaux. Mais bon, grand musicien, grand passionné qu'on a souvent entendu à Toulouse, notamment au Festival Piano Jacobin, et aux grands interprètes. Donc, quel programme va-t-il proposer avec la Camerata de Salzbourg le 19 avril à la Halle aux Grains, Serge Chosy?
Oui, alors d'abord, il faut préciser que ce n'est pas lui qui dirige la Camerata Salzbourg. C'est le premier violon qui va diriger, donc, et il vient, lui, à la fois comme pianiste et comme compositeur, puisqu'il compose beaucoup. Et donc, il y aura deux œuvres de Mozart et deux œuvres de... Alors, je vous donne la prononciation turque, Fazıl Say.
Oh, ça va, c'est pas si compliqué que
non,
ça à
c'est
dire,
pas hein. si compliqué. Alors, donc, de Say, il y aura d'une part sa Chamber Symphony pour orchestre à cordes, qui est son opus 62, et puis une œuvre, alors là, je ne m'hasarderai pas la prononciation. Yuryenkösk, bon, alors, ça veut dire la maison déplacée, mais ce qui est important à noter, c'est qu'il s'agit d'un hommage à Atatürk. Alors quand on sait les difficultés qu'a eues le pianiste avec les autorités turques qui lui...
Eh oui, mais oui. C'est pas de chance, il vit sous, le... sous Erdogan.
Sous Erdogan, et donc voilà, il a eu des difficultés. Et donc là, il a tenu à composer cette œuvre, qui est son opus 72, qui date de 2017, donc une œuvre qui n'est pas très ancienne, pour piano et cordes, donc il interviendra comme soliste. Et puis les deux œuvres de Mozart, il y a d'abord le concerto numéro 12 pour piano et orchestre, donc il jouera en soliste, et la symphonie numéro 29, donc, qui est une des grandes symphonies de Mozart qui clôturera le concert, donc qui est le dernier concert de la saison des grands interprètes.
Voilà, comme je l'ai signalé. Serge Krzyzewski, un avis sur Fazil Say, je disais qu'il était très controversé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'accompagner avec l'Orchestre du Capitole.
Je ne vais pas alimenter la controverse. Non, c'est une personnalité assez fantasque et qu'on peut trouver attachante. Bon, c'est un pianiste qui a été à un moment, effectivement, un peu sur les devants. Et qui...
Oui, il avait été très médiatisé à l'époque.
Voilà.
Peut-être
et
parce qu'il était
qu'il
turc,
moins,
d'ailleurs.
Qu'il est beaucoup moins
beaucoup
maintenant.
Moins maintenant.
Mais, alors, effectivement, il y a cette carte, cette facette de compositeur qu'il a beaucoup développée. Donc, il joue un peu sur les deux touches, si j'ose dire.
Bah, et ça sera l'occasion de découvrir sa composition pour ceux qui ne les connaissent pas. Nous allons écouter maintenant Fazil Say au piano dans une interprétation du premier mouvement Allegro du concerto numéro 12 K414 de Mozart. Le premier mouvement Allegro du concerto pour piano numéro 12 K414 de Mozart, interprété par Fazil Say, une des œuvres qu'il va donner mardi 19 avril à 20h à la Halle au Grain, accompagné par la Camerata de Salzbourg, un concert qui clôt la saison 21-22 des grands interprètes, où sera jouée également la 29e symphonie de Mozart et de pièces composées par Fazil Say lui-même. L'autre concert du mardi 19 avril à Toulouse, également à 20h mais au Temple du Salin, vient lui aussi clore une saison, celle des Arts. C'est un type de formation qu'on est peu habitué à entendre qui va s'y produire, un quatuor de saxophone, le quatuor Ellipsos, Serge Chosy.
Alors, le quatuor Ellipsos, c'est un quatuor de saxophone, hein, donc qui vraiment est au top niveau des quatuors de saxophone. Il y en a quelques-uns quand même dans le monde, et donc vraiment, c'est un quatuor prestigieux, on peut le dire. Hein. Il y a quatre personnes, donc Paul Fatih Lacombe, saxophone soprano, Julien Bréchet, saxophone alto, Sylvain Jarry, saxophone ténor, et Nicolas Herouette, saxophone baryton. Et c'est Nicolas Herouette qui a réalisé la plupart des transcriptions, puisqu'il y a au programme du concert à la fois des transcriptions d'œuvres écrites pour d'autres instruments et des œuvres écrites pour quatuor de saxophone. Alors, ils joueront d'abord de Johann Sebastian Bach, bon, la toccata et fugue en ré mineur.
Oh, ça doit être une transcription, ça.
Je le crains, oui. Alors, et puis un concerto pour orgue, en do majeur, donc, voilà, pour Bach. Et puis de Schumann, la fuga numéro 5, sur le nom de Bach, d'ailleurs. Là aussi arrangé, évidemment. De Mozart, une fantaisie pour orgue en fa mineur. Il a écrit quelques œuvres pour orgue, pas beaucoup, Mozart, mais quelques-unes.
Orgue mécanique, ouais.
Voilà, oui. Voilà, oui. Et puis de Claude Debussy, là aussi arrangé par Nicolas Hérouette, le fameux Clair de Lune, donc extrait de la suite Bergamasque. Et puis une œuvre originale d'une compositrice de la région, disparue maintenant, disparue en 1954, qui est Fernande de Cruc, qui est née à Gaillac et qui a fait des études au Conservatoire de Toulouse et puis au Conservatoire de Paris. Et elle a beaucoup écrit pour le saxophone.
Eh oui, c'est un instrument apparemment. Alors, je ne sais pas si elle en jouait elle-même, on peut le supposer. En tout cas, elle devait être environnée de gens qui en jouaient.
Oui, oui.
Et donc, Fernande de Cruc était née Braille, là, je le précise, ce n'est pas son nom de jeune fille.
C'est pas un occitan, oui.
Voilà, absolument.
Et donc, il y aura deux œuvres d'elle, Pavane et Saxophonia di Camera. Et enfin, Tango virtuoso d'un compositeur connu d'aujourd'hui, Thierry Esquèche, compositeur et organiste d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui devrait conclure ce concert tout à fait original. Et donc, on est tout heureux de pouvoir y assister.
Oui, alors une des attractions effectivement de ce concert, c'est ce quatuor pour saxophone de Fernande de Cruc, qui a enseigné aussi au Conservatoire de Toulouse
oui,
entre 1937 et 1947. Et elle a composé plus de 40 pièces pour le saxophone. Et bien voilà donc une formation et un concert parfait pour conclure la saison des Arts Renaissants et cette émission par la même occasion. Ça va nous donner le plaisir de découvrir justement la musique de Fernande de Cruc avec cet extrait de sa pavane joué par le quatuor Ellipsos. La pavane de Fernande de Cruc, interprétée par l'excellent quatuor Ellipsos, une des pièces au programme de leur concert du mardi 19 avril à 20h au Temple du Salin, en clôture de la saison 21-22 des Arts Renaissants. Je vous invite d'ores et déjà à réserver et acheter vos places en ligne sur le site de l'association www.art-renaissant.fr. Fin de cette émission, un grand merci à vous trois, Serge Chosy, Serge Krichewski et Robert Pénavert, d'avoir grandement contribué à l'animer à mes côtés. Je rappelle le concert du trio Cavalcade, vendredi 15 avril à 20h à l'auditorium Marc Condat de l'université Paul Sabatier à Toulouse-Rangueil. Il est proposé par la saison Toulouse Guitare, réservation et billetterie en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Autre concert le vendredi 19 avril à 20h à la Halle au Grain, donc celui du pianiste Fazil Say avec la Camerata de Salzbourg pour l'ultime rendez-vous de la saison des grands interprètes. Au programme, le concerto numéro 12 et la symphonie numéro 29 de Mozart, ainsi que deux œuvres de Fazil Say. Il faut réserver et acheter ses places en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Et enfin, je signale de nouveau les quatre représentations de Yenoufa, le très bel opéra de Leos Janáček, au Théâtre du Capitole les 20, 22, 24 et 26 avril, dans la mise en scène de Nicolas Joël. Réservation et achat de vos places en ligne sur le site www.theatreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.